bonsoir. Depuis plus d'une semaine, le député Alfred Maïcha a déposé une question écrite au bureau de l'Assemblée nationale mettant en cause trois ministres du gouvernement central. Selon ce député, élu de Bukavu dans le Sud Kivu et une partie de la société civile du Sud Kivu, bien sûr, l'accord signé entre la RDC et Primera Group sur l'exploitation minière dans le Sud Kivu consacre le bradage de la RDC pour les prochaines années. Des accusations rejetées par le gouvernement congolais. Cette polémique autour de ce contrat rappelle une autre soulevée par d'autres contrats signés dans le passé par le gouvernement de la RDC. C'est par exemple le contrat sino-congolais signé en 2008 par le gouvernement congolais et un consortium chinois, contrat dénoncé par l'inspecteur général des finances. Ce dernier l'a même qualifié d'arnaque du siècle et plusieurs experts recommandent sa renégociation. Que pensez-vous de la manière dont la RDC négocie ses contrats? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 7 septembre 2023. Participe au débat Georges Bokundu, directeur de programme de Chaven Africa Resource Watch. J'espère que j'ai bien prononcé, monsieur Georges. Vous êtes ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers, mandataire en mine et avocat. Bonsoir. Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, en sigle. Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources naturelles pour le développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Franck Fouamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux éditeurs de la Biocap.
À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La controverse entourant les avantages fiscaux et commerciaux accordés à Primera Group en RDC s'intensifie, divisant l'opinion publique, la société civile, certains législateurs et le gouvernement. Primera Gold au cœur d'un débat sur les bénéfices de son partenariat avec l'État congolais. Alfred Maïcha, député national, a récemment critiqué publiquement les privilèges et le monopole accordé à Primera Gold, soulignant qu'il ne favorisait pas les entreprises congolaise dans l'exploitation des matières premières. Ce dernier a même déposé une question écrite au bureau de l'Assemblée nationale, mettant en cause trois ministres du gouvernement. Merveille Assani.
Selon ces députés élus de Bukavu dans le Sud Kivu, cet accord sur l'exploitation minière consacre le bradage de la RDC pour les prochaines années. Pour cause, Primera Gold n'engage que 20 000 dollars américains comme capital dans chacune des CD sociétés créées en RDC, à savoir Primera Gold et Primera Metal. Pour sa part, le gouvernement nie avoir accordé l'exclusivité de l'or Primera Gold DRC. Selon le ministre des Finances, intervenant lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, ces contrats prévoient la signature d'un décret où il est question de la création d'un centre de commercialisation et d'exportation dont l'État congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut moyennant une évaluation annuelle de la performance. Malgré la réaction du gouvernement, la présence de l'entreprise émiratie Primera Gold, active dans le pays depuis le début de l'année, fait débat. Alors que le député Alfred Maïcha a critiqué la situation de monopole dont bénéficierait l'entreprise Primera Gold, le docteur Denis Mukwege s'est joint à lui et a appelé la jeunesse du site Kivu à s'élever contre les agissements dits opaques de la firme. Mais si Primera Gold compte bien investir dans la région, des zones ombres demeurent selon certains observateurs. Jean-Claude Mputu, porte-parole du collectif Le Congo n'est pas à vendre, reconnaît l'utilité d'une telle entreprise et ne conteste en rien les données du gouvernement. Mais il regrette que certaines zones opaques demeurent notamment au sujet des contrats.
Merci Merveille Assani, Georges Bokundu avec nous dans ce studio, directeur des programmes de Chaven Africa Resource Watch. Vous êtes ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers, mandataire en mine et avocat depuis quelque temps au sein de l'opinion publique congolaise. Il y a cette polémique, ces débats sur l'accord signé entre le gouvernement et Primera Group sur l'exploitation minière dans le sud Kivu. Il y a le député Alfred Maïcha qui a même déposé une question écrite au bureau de l'Assemblée nationale mettant en cause trois ministres du gouvernement central. Il regrette quand même cet accord entre le gouvernement. Il y a trop d'opacité. Il parle même des bradages des ressources minières de la RDC par ce groupe. Du coup, il y a ce débat, cette polémique. Beaucoup de gens commencent à se poser des questions sur la manière dont les contrats sont négociés et signés en RDC. Votre point de vue d'abord par rapport à cette polémique cette signature de contrat entre le gouvernement et Primera Gold.
Merci beaucoup, madame. J'aurais bien voulu ne pas intervenir très bien, très profondément dans cette polémique.
Très brièvement. Hein?
Très brièvement, c'est que d'abord, honorable Alfred, c'est un député. Il a les droits de poser des questions à un membre du gouvernement ou à trois membres du gouvernement. Il est libre avec sa mission de parlementaire. Faudrait-il confirmer ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, ou ce que le ministre des Finances a démenti, c'est vrai ou faux? Je me dis, la question des négociations des contrats ne commence pas aujourd'hui, comme vous avez résumé. J'ai eu la chance d'être membre de la commission de révisitation des contrats miniers. J'ai été vice-président. J'ai lu tous les contrats miniers de la République, même des conventions pétrolières, donc j'ai une petite expérience sur ça. Le pays a toujours eu ces problèmes-là, des signatures des contrats. Est-ce que c'est à cause des manques de compétences ou c'est une volonté d'avoir un engagement quelconque? En réalité, vous pouvez lire tous les contrats, à un moment donné, vous pouvez déceler des faiblesses, des griefs. Mais ce n'est pas ce qui fait retomber des dividendes dans la caisse de l'État. Les contrats, c'est les contrats, mais la gestion d'un projet, c'est aussi un autre problème. Donc, dans les contrats primaires, si je dis, je voudrais bien me réserver, mais je me dis, il y a des phases. Il y a l'or, parce que le député n'a pas seulement parlé des questions de l'or, et il y a l'aspect aussi 3T. Dans les deux cas, vous allez voir que, par exemple, mon organisation avait publié vers les années 2011, 13, 14, trois rapports sur l'or. Et les pays, en termes des statistiques que nous pouvions, nous, Congolais, identifier, c'était zéro. C'est-à-dire que nous, c'est 112 kilos par an, ou 26 kilos, ou 30 kilos, alors que l'or qui quittait le Congo pour des pays voisins était estimé entre 10 et 15 tonnes d'or. En réalité, on pouvait croire que, premièrement, si on peut orienter notre production artisanale dans une même caisse ou une même donnée, une base de données, nous pouvons dire que c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Mais ce qui est en dessous, ça, nous ne savons pas. Est-ce que le pays va gagner?
Justement, c'est ça même la polémique. Beaucoup de Congolais se disent pourquoi ce genre de contrats ne sont pas rendus publics, pourquoi ces contrats ne sont pas mis à la disposition de la population pour que les gens comprennent aussi ce qui se passe, ce que signe le gouvernement avec ces entreprises minières étrangères. Est-ce que ça devrait se passer comme ça?
Non, la loi a déterminé la durée sur laquelle le gouvernement est obligé de publier. Si on a déjà dépassé les 6 mois qui est prévu, que ce soit dans les codes miniers, il y avait tout un décret d'un premier ministre qui avait signé, exigeait à tous les ministres du secteur des ressources naturelles de publier dans les 6 mois qui suivent tous les contrats signés dans ce secteur-là. Donc si on est encore dans les 6 mois, on ne va pas condamner un ministre. Mais si les 6 mois sont déjà passés, donc le ministre doit publier. Est-ce qu'il faut cacher un contrat? Qu'un État signe. Dans notre pays, nous sommes dans la transparence, dans l'ITIE. On demeure dans un processus qui est international où nous avons pris des engagements. On n'a pas besoin de cacher un peu, parce qu'il n'y a plus de termes de confidentialité. Les termes de confidentialité étaient hier. Aujourd'hui, un contrat, c'est vrai, il faut protéger un investisseur, parce qu'il ne faut pas donner toutes ces données qui peuvent déjouer tous les autres conquérants. Mais si réellement que Primera, qui était un grand pays, il vient d'un grand pays, un investissement qui est important, mais ce qui est important, c'est de dire oui, nous avons signé avec tel pays ou telle compagnie, la compagnie nous doit autant, nous nous devons... Les obligations de chaque partie, on doit les donner, on doit les citer. Ça n'a rien à voir, on ne doit pas les cacher. Et nous, en tant que Congo, on n'a pas commencé les contrats avec Primera. Et ça date, même la Jacamine avait des contrats avant qu'on arrive dans la loi de 2002. Il y a eu des contrats, des engagements, même commerciaux, des engagements commerciaux et puis d'autres engagements entre les parties. Donc il ne faut pas cacher ça. Parce que les critiques des autres peuvent améliorer un contrat. Les autres observateurs, ce n'est pas parce que vous avez signé que vous êtes trop compétent plus que tout le monde. L'autre, elle, peut vous dire que non, ici il y a une erreur. C'est ce qu'on a fait en 2007. Lorsqu'on a analysé tous les contrats miniers du Congo, on avait relevé des griefs. Des griefs qui pouvaient changer les choses. Donc moi, on continuera toujours à signer les contrats. Mais ce qui est important...
Et ça devrait être à la portée de tout le monde.
Et aujourd'hui...
Être accessible à tout Congolais.
Nous avons une loi, nous avons un règlement minier qui exige la publication de tous les contrats qu'on signe dans les secteurs extractifs. Ce n'est pas une obédience de quelqu'un qui doit les cacher.
Et lorsque cela ne se fait pas, est-ce qu'un Congolais a le droit de porter plainte, par exemple, contre le gouvernement?
Oui, peut-être, vous savez. Est-ce que le gouvernement a un intérêt de cacher ses contrats? Qu'est-ce qu'il gagne en cachant? Je ne pense pas qu'un gouvernement normal peut cacher. Je ne pense pas qu'il cache. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si les 6 mois sont atteints, je pense que le ministre des Mines ou la ministre des Mines est appelé à transmettre à l'ITIER, au secrétariat technique de l'ITIER, qui va publier. C'est pas la ministre qui va, c'est l'ITIER qui va publier de toutes les façons, ou on va publier dans les sites du ministère des Mines. Donc c'est comme ça.
Mais beaucoup d'observateurs aujourd'hui dénoncent quand même le fait qu'il y a beaucoup d'opacité dans les contrats que le gouvernement congolais signe avec les entreprises. Je ne parle pas seulement du gouvernement actuel, même des gouvernements précédents. On ne dit pas clairement les choses, c'est très opaque. C'est souvent des contrats qui bénéficient à un groupe d'individus et non à toute la République.
Vous savez que lorsqu'on signe un contrat, on peut beau associer tout le monde. On pourra toujours peut-être trouver une faiblesse. Il n'y a jamais eu un contrat vraiment modèle. On a essayé, après la révisitation du contrat minier, de faire les contrats miniers type. Vous pouvez trouver toutes les dispositions là-bas. Mais le problème, c'est lequel? Nous signons un contrat aujourd'hui. Et l'exécution du contrat, c'est géré par un partenaire. N'attendez pas quelque chose de bon. Si nous, au Congo, nous devons être seulement pour privilégier les contrats d'investissement qui viennent d'ailleurs, ne nous attendons pas à des gros intérêts. Sachez que quand la partie adverse ou les partenaires gèrent, sachez que c'est celui-là qui gère qui va beaucoup récupérer par rapport à vous. Quand on reste l'État régulateur, sachez que mettez-vous seulement dans votre principe de contrôler, surtout que nous sommes dans un système déclaratif. C'est l'investisseur qui déclare, c'est lui qui gère qui déclare. J'ai investi 2 milliards, j'ai dépensé 2 milliards. Toi, tu as même l'incapacité à un moment donné de contrôler si réellement c'était l'investissement de 2 milliards. À un moment donné, on était incapable de mettre la main sur les pièces comptables. Donc, ici, si le Congo veut avoir les retombées économiques de ce que la RDC possède sur son sous-sol, il ne faut pas vous contenter d'être régulateur. Il faut être acteur. Il faut gérer avec l'autre. Parce que quand l'autre gère, il n'est pas ton fils. On n'est pas dans la Bible, dans la gestion.
Il cherche son bénéfice.
Oui, oui, il cherche son bénéfice.
Merci.
Et par tous les moyens.
Merci, monsieur Bokundu. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole au professeur Florimond Mouteba, qui est président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique. Professeur, nous sommes dans ce débat sur les accords, les contrats signés entre le gouvernement et les entreprises minières étrangères. Faut-il ou pas, est-il obligatoire de publier tous ces contrats?
Merci madame de de me poser cette question. Je vous remercie aussi, je remercie Radio Okapi de m'avoir associé à ce débat. Madame, vous savez, je voulais prendre la dimension, à la fois la dimension de finances publiques, donc les recettes minières, et la dimension, bien sûr, de la lutte contre la corruption. Parce que les grands problèmes que nous avons, c'est quoi? C'est que, vous savez, lorsque on a le pouvoir de l'État, il y a énormément de possibilités d'enrichissement illicite. Mais la seule façon de contrer cela, c'est qu'on puisse marcher selon une certaine éthique. On puisse marcher selon l'amour de son pays. Qu'on puisse marcher selon l'importance de l'intérêt général. D'où la nécessité de la transparence, entre autres. Et donc, le malheur avec nous, ça fait 63 ans aujourd'hui, madame, c'est-à-dire que nous avons eu des responsables qui, lorsqu'il s'agit de profiter des possibilités que l'État donne, que le pouvoir d'État donne pour s'enrichir, ils n'hésitent pas. Vous savez, vous pouvez, peut-être mis à part le musée Laurent Désiré Kabila, mais, et peut-être Joseph Kasavubu, mais tous les autres régimes sont malheureusement dans cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des primaires, mais on peut parler des Sicomil, par exemple. Vous voyez ce qui s'est passé avec les amis de Joseph Kabila et les dégâts qu'ils ont causés à travers cet accord sino-congolais, dans lequel, globalement, selon l'IGF, nous avons perdu 17 milliards et le Congo n'a gagné péniblement que 300 millions sur 15 ans. Madame, c'est énorme. C'est énorme. Mais aujourd'hui, madame, qui est innocent? Parce qu'on a, on a commencé à négocier, à renégocier suite à beaucoup de... Nous sommes intervenus, société civile, pour appuyer les rapports de l'IGF, pour exiger... l'ODEP, par exemple, est allé loin. L'ODEP a exigé même la nationalisation de toute cette opération. Et puis, bon, on a quand même obtenu la réutilisation. Il y a Georges et même Franck Mfouamba ont participé comme experts lors de la préparation de la mission de la commune, le travail de réutilisation. Et puis, depuis lors, je crois que comme ils sont là, personne ne va te dire qu'il est encore au courant de tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et l'ODEP a revenu là-dessus pour dire halte à l'opacité, halte au manque de transparence. Et donc, qu'est-ce qui se trame, n'est-ce pas? Et cela, c'est dans tous les contrats, parce que Georges a participé à la révisitation il y a quelques années des contrats. Il a été vice-président de la commission. Et donc, c'est comme ça, dans notre histoire, c'est-à-dire que l'intérêt général ne compte pas. Dans cette histoire de Primera, madame, je prends la dimension, par exemple, exonération, mais qu'on a vu aussi dans le cadre de Glencore ou même de la Sicomine, où on a parlé de 3 milliards d'exonération. Madame, du point de vue économique, du point de vue de l'analyse économique, quand est-ce qu'on donne des exonérations à une entreprise? On donne des exonérations à une entreprise qui, dans son fonctionnement, peut démontrer que dans les 3, 4, 5 années qui viennent, je vais avoir des véritables difficultés. Si je paye les impôts que je dois payer, et taxes et autres, mon cycle d'exploitation va poser problème. Je vais manquer de fonds de roulement. Je vais manquer, etc. Donc, mais ça se démontre par un travail d'une analyse économique, scientifique, technique, valable, où l'on démontre que l'entreprise va créer des richesses, mais pour qu'elle les crée, dans un premier temps, dans les trois ou quatre ou cinq premières années, les temps d'amortir des investissements importants que l'entreprise auquel elle a consenti, etc., il est bon de l'exonérer. Et on peut le démontrer économiquement, madame. On peut le démontrer économiquement. Maintenant, dans le cadre du Primera, c'est une activité commerciale.
tout bêtement, on achète de l'eau qui vient des artisans. Et puis, en quoi, quel investissement Primera a fait qui peut l'empêcher de faire des bénéfices, des profits, en achetant juste chez les artisans et en vendant à l'extérieur? Donc, vous comprenez que ce soit pour Sicomine, que ce soit pour Primera ou d'autres, ces exonérations qui font manquer à l'État des moyens, c'est-à-dire des recettes donc fiscales, pour pouvoir, qui doivent être investis dans d'autres activités de développement du pays, du fonctionnement du pays, de l'armée, la police, la sécurité, etc. Ces moyens sont perdus sans raison, madame, sans comprendre pourquoi on donne ces exonérations-là. Tout simplement parce que nous sommes un peuple, comment dirais-je, excusez-moi les termes, un peu d'inconscient, quoi. Comment voulez-vous, madame, comment voulez-vous donner des exonérations de cette manière-là? De cette manière-là, vous voyez.
Hein? Alors, professeur, vous dénoncez aussi un peu ce contrat entre le gouvernement et Primera Gold, mais la question aujourd'hui, la polémique aujourd'hui, tout ce qui s'est dit aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est la publication des contrats que le gouvernement signe avec ses entreprises. Ouais. La population estime que ces contrats devraient être rendus publics. Absolument. L'information doit circuler.
Oui, absolument. Doit être rendu public. Tout comme aujourd'hui, j'ai parlé des négociations de Sicomine, mais même les contrats avec Primera. Pourquoi on ne l'a pas publié jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas publié jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi une entreprise qui débarque avec ses 20 000 dollars, oui, peut-être que c'est le minimum exigé par la loi pour la constitution du capital social. Bon, soit. Mais elle arrive de cette manière-là. Les contrats, il a fallu attendre qu'un député, on peut dire tout de lui, mais qu'un député dénonce, et c'est le contrôle parlementaire, et c'est tout à fait normal qu'il puisse dénoncer, pour qu'on puisse enfin nous expliquer, pour que nous puissions voir le gouvernement, la présidente de la République, devant les médias, pour nous expliquer. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient tout ce temps-là pour pouvoir expliquer ça? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est une obligation.
Alors, professeur, il y a Marinette qui nous écrit depuis Kasumbalesa. Elle veut savoir si chaque fois que le gouvernement négocie un contrat ou signe des accords avec les entreprises, est-ce que le Parlement doit être informé?
Non, pas forcément. Pas forcément. Le code minier est clair et que ça dépend quelle est la nature de ces contrats. Si il y a des questions peut-être d'intérêt national, de sécurité nationale, peut-être oui. Mais si c'est le simple fonctionnement, l'investissement, c'est pas obligatoire. À moins que Georges me contredise, mais c'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Et donc maintenant, même si le Parlement devait être consulté, mais tant qu'on est tous dans cette... que vous avez vu, madame, l'histoire de la rame, non? Nous sommes dans une culture de la corruption, dans une culture généralisée de la corruption. Donc même le Parlement peut aussi être entraîné dans cette logique de rétrocommission, et le Congo perdra toujours. Nous avons un réel problème d'hommes, et c'est des classes politiques même, j'allais dire, et parce que c'est l'homme qui négocie, c'est l'homme qui peut tenir compte de l'intérêt national ou pas. Mais globalement, cet intérêt national, vraiment, on n'en tient pas compte.
Franck Fomba, fondateur et directeur général de la revue Mining News. Vous êtes fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, mais aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt, la RDC dans une culture généralisée de la corruption. Ces propos sont du professeur Florimo Mouteba. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci madame, bonsoir à Georges et bonsoir à professeur Florimo. Dernièrement, quand la cellule, je parle du climat des affaires de la présidente de la République a publié un rapport sur le baromètre sur le climat des affaires, le constat était clair et le chef de l'État l'a dit. tout le monde doit être impliqué dans la lutte contre la corruption, parce qu'elle gangrène. On a vu des procès dans le secteur des ressources naturelles, on a vu des contentieux qui se sont passés. Il y en a beaucoup autour de la corruption et des problèmes de corruption, on se pose. Je pense que cela est aussi, et surtout, le fait, comme je l'ai toujours dit, que la RDC n'a pas une vision claire de son secteur des ressources naturelles. Non pas seulement les mines. La RDC n'a aucune politique claire, n'a aucune stratégie claire concernant le pétrole et le gaz, concernant la gestion des eaux, concernant la gestion des forêts, concernant la gestion de la terre, qui sont des ressources naturelles, et concernant les humains, qui est le capital humain, qui est une grande ressource naturelle qu'elle a aujourd'hui. Vous savez, Georges, professeur Moutéba et Georges venait d'évoquer la révision de contrat. En principe, aujourd'hui, plus de 10 ans après que, sous le leadership de Georges et Dr Claude Kabemba, que Sarwa ait fait travailler la société civile pour qu'on puisse proposer au gouvernement un contrat minier type, on ne devait plus aujourd'hui parler de choses comme ce qui se fait. Les gens ne devaient plus, on ne devait plus se poser des questions comme sur Primera, on ne devait plus se poser des questions. Ce qui se passe chez Sakima, ce qui se passe c'est chez Boss Mining, c'est chez Comigé, chez Rush Mining, où on prend des permis des gens, où on fait ceci, on fait cela. On devait, après la révision des contrats miniers, en principe, on devait tirer les leçons. Les leçons des contrats tels que les contrats TFM, tels que les contrats KMT, tels que les contrats KCC, et ou récemment, on devait tenir aussi compte, tirer la leçon des contrats tels que les contrats SICOMIN. Comme Georges a dit, le contrat n'est pas un texte parfait. Moi, je pense que le gouvernement, et je propose que le gouvernement soit ouvert, au lieu de se défendre, toujours être la défensive, ceux qui dénoncent, il y en a qui dénoncent de bonne foi, de mauvaise foi, mais j'ai toujours dit aux gens que la critique, c'est comme le poisson que l'on mange. Quand vous mangez du poisson, il a des arêtes. Vous avalez la chair et vous faites sortir les arêtes, vous les jetez. Je pense que tout ce qui s'est dit au niveau de Primera et d'autres contrats, tout ce qui se, les problèmes qui se posent au niveau de beaucoup d'entreprises minières et pétrolières, gazières aujourd'hui, à un moment, le gouvernement de la République, avec l'autorité suprême, la présidente de la République, pouvait se mettre ensemble, devait se mettre ensemble avec les gens, avec le Parlement, avec la société civile, pour dire, faisons une évaluation. Non pas seulement des contrats, mais de la façon dont on signe les contrats. Madame, le mois de juin, le Botswana qui est pris pour un modèle, des bons contrats dans les ressources naturelles, dans le secteur du béni, venait de renégocier pendant 3 mois son contrat avec la firme DBS sur les diamants. Elle a dit à DBS, nous prévoyons les termes pour que le Botswana soit gagnant. Les minéraux concernés par ceci de là, Primera, il y a de l'or qui est la valeur refuge pour toutes les monnaies du monde, toutes les économies du monde. Il y a les 3T dans lesquels il y a le coton qui est un minéraux stratégique. Dans le cuivre cobalt, nous avons le cobalt qui est le minéraux stratégique, nous avons le germanium. Ce sont ces questions-là, en principe. C'est devenu aujourd'hui, pour nous, une politique, et c'est plutôt une question d'intérêt de sécurité nationale. Ce que le député Maïcha a dit, c'est bon, mais c'est un peu suspect pour moi. Parce que, pourquoi seulement se réveiller aujourd'hui sur Primera, alors que le secteur minier connaît un problème très sérieux, le secteur des ressources naturelles. Georges l'a dit, professeur Moutéba l'a dit, le Parlement de la RDC a failli. Le Parlement a failli et il a failli. Ils édictent les lois, ils votent les lois. Dès que les lois sont publiées par le président de la République, le Parlement ne suit pas l'exécution des lois. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de problèmes qui se voient dans les sous naturels et ces problèmes-là doivent interpeller. Aujourd'hui, dans les mines, il y a des questions, c'est Primera. Il y a aussi la question des permis, mais chez Sakima, les permis des gens qui posent des autres entreprises qui posent problème. Il y a le problème qui se pose avec Boss Mining et Comité, les permis qui sont révoqués. qui ont été déchus. Il y a le problème qui s'est posé chez Comilière avec AVZ, chez DATCOM. Mais ce sont des questions d'intérêt national qui concernent les minéraux critiques, les minéraux stratégiques. Le Parlement devait se mettre, déjà depuis ce temps, le Parlement devait interpeller les ministres, le gouvernement, après la révision du contrat minier pour dire voici désormais comment les choses se font. Et le Parlement devait jouer son travail concessionnel de faire le monitoring de l'action du gouvernement.
Vous avez l'impression que le Parlement ne joue pas son rôle?
Je reprends les mots. Le Parlement a failli et sincèrement, ces gens doivent être remplacés. Il ne faut pas qu'on vote pour pareils gens qui sont là pour se battre pour les véhicules, pour les pelviennes, pour leurs émoluments, alors qu'ils ne font pas le travail de contrôler le gouvernement. On a besoin d'un Parlement qui veille que les lois qu'elle a proposées au président de la République pour promulgation, les lois sont appliquées par le gouvernement. On a besoin d'un Parlement qui contrôle l'action du gouvernement dans tout ce que le gouvernement fait, afin que la population se retrouve bénéficiaire. Parce que vous savez, pas aujourd'hui, on crie sur les ministres, on crie sur les ministres Kazadi, sur les autres ministres, mais si le Parlement faisait son rôle, les autres ministres là, sur lesquels on crie aujourd'hui, peut-être qu'ils n'auraient pas fait ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Si le Parlement faisait son rôle, peut-être qu'avant que le contrat soit signé, il se serait intéressé, parce que le gouvernement aurait dit, par exemple, ce n'est pas une obligation, comme le professeur a dit, et la loi ne l'oblige pas. Mais dans le cadre de la bonne gouvernance, de la transparence, dans le cadre des intérêts nationaux et de la sécurité nationale, comme ça concerne certains minéraux qui sont des minéraux stratégiques, peut-être le Parlement, le gouvernement aurait approché le Parlement pour dire voici ce que nous voulons faire, qu'est-ce que vous pensez? Et ailleurs en Europe, on ne consulte pas la société civile, mais on tient compte de ce que les think tanks disent. Parce que si chez nous, on n'anticipe pas, ici nous subissons, on fait d'abord les choses, c'est quand il y a les gens crient et puis après on retourne pour corriger, alors qu'ailleurs, les États-Unis, l'Union Européenne, la Chine, le Japon, la Corée, ces pays-là ont une politique des ressources naturelles sur les 50 ans. Quelle est la nôtre aujourd'hui? La vision minière africaine, qui est la vision minière africaine, et que chaque pays devait intérioriser, adapter à ses propres réalités. C'est ce que je dis, que si nous avions un Parlement responsable, on aurait une stratégie, une vision minière très claire, qui ferait que tous ces problèmes ne seraient pas revenus après le travail que Georges avait abattu avec les autres, la société civile et les autres, pour revoir les contrats liés, pour faire des propositions, afin que pareilles choses n'arrivent pas.
Merci donc, Franck, on vous garde encore dans cette émission. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler. On va aller dans la province d'Elitouri pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Monsieur Georges.
Hôtel d'Akim à Mambasa, province de l'Ituri. Le gouvernement congolais doit changer ses anciennes méthodes de pouvoir promouvoir les intérêts de quelques individus au mépris des intérêts de la République tout entière. Le gouvernement congolais doit, chaque fois, après avoir signé de pareils accords, publier et vulgariser les tenants et les aboutissants des contrats et de garder top secret. Nous avons par le passé ces fameux contrats sino-congolais qui étaient signés et gérés à toute opacité et malheureusement qui n'ont pas profité à la population congolaise. Et enfin, celui-ci, c'est-à-dire le gouvernement, doit savoir que cette habitude ne favorise pas la transparence dans la gestion de nos minéraux.
Georges Bokundou.
C'est un Congolais qui a raison, c'est son opinion, et nous avons des lois que nous devons respecter, c'est vrai, il faut publier, c'est pas utile d'attendre que les gens crient, non, publier, mais je répète, que le gouvernement a 6 mois, si les 6 mois dépassent et qu'il ne publie pas, donc que le gouvernement aura tort de ne pas publier ces contrats-là. Signer les contrats pour des intérêts des individus, c'est, chacun de nous doit se reprocher si réellement on a signé un contrat pour la poche de quelqu'un. On signe des contrats dans les domaines des mines, c'est pour essayer d'amener ce qu'on appelle des investissements directs. et ça peut contribuer au développement du pays.
Vous êtes dans le secteur, vous êtes du domaine, mais depuis que le gouvernement signe ses contrats, vous avez suivi même Franck Fouamba, il n'y a pas que Primera qui pose problème, il y a beaucoup de problèmes dans le secteur des mines. Pensez-vous que la RDC a déjà bénéficié ou a déjà gagné quelque chose avec ces entreprises étrangères?
Il faut noter une chose. Nous avons une histoire du secteur minier de la RDC. Il ne faut pas oublier que la Belgique a été colonisateur de ce pays. La Belgique, je ne sais pas s'il avait signé avec nos anciens dirigeants de l'époque des contrats, mais la Belgique est venue exploiter. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre et développer la Belgique. Et ça a aidé les autres pays occidentaux, c'est pas seulement la Belgique elle-même. Mais nous n'avons pas tiré les leçons que c'est un étranger qui est venu dans notre pays, qui a exploité, qui a permis à ce que son pays se développe. Nous sommes venus à l'indépendance et la Belgique nous a accompagnés avec beaucoup de compagnies, notamment la Gécamines. Nous n'avons pas aussi tiré la leçon de notre partenariat avec la Gécamines où Aucun pouvait tout traiter en Belgique. Et nous évoluons avec Gécamines congolais, Somenki, Miba, Sokimo, Okimo de l'époque. Mais on n'a pas toujours tiré les sons. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, on est passé dans les systèmes de partenariat. Système de partenariat, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens. La Gécamines est tombée en faillite. Tout la mine de Kamoto est noyée, et puis la Miba, on ne sait pas la relever. Mais on ne sait pas comment faire. Comment hier, avec les partenaires étrangers, on pouvait mettre une Gécamines qui était active, qui pouvait arriver à 480 000 tonnes à l'époque, et que l'économie du pays était très forte. Maintenant, nous sommes à 2 300 000 tonnes en 2022. Mais nous n'avons pas encore, on ne ressent pas la force que la Gécamines a menée vers les années 80 avec les 480 000 tonnes. Mais sachez qu'effectivement, c'était une production de la Gécamines qui était une propriété de l'État. Aujourd'hui, les partenariats, ce n'est pas notre propriété. Nous avons 20 ou 30%. Mais j'ai toujours dit aussi, la Gécamines faisait aussi comme les autres compagnies aujourd'hui. Donc la Gécamines avait un personnel qu'elle devait payer. Il avait aussi des taxes qu'elle payait. Il y avait toutes les charges. Les compagnies ici ont toutes les charges, mais au moins, leurs bénéfices vont ailleurs. Ça ne se passe chez nous. Je donne l'exemple de l'Angola. L'Angola exploite le pétrole. Ce qu'il faut noter dans un pays donné, lorsque l'Angola considère que le pétrole, c'est la vie économique de son pays, elle fait du pétrole ça, son poumon économique, elle met tous les céréales possibles. Et ce genre de secteur, ça devient des secteurs stratégiques. Ou si je néglige, l'économie de mon pays va être désarticulée. Donc, je considère comme c'est en Angola. En Angola, les poumons, il fait et l'exploitation et les services. La Sonangol contrôle. Mais nous, on ne contrôle pas. On est régulateur. On laisse tout entre les mains des partenaires. Je répète, c'est lui qui gère. Il ne va pas gérer pour votre intérêt. Il gère pour son intérêt. Donc, connaît les contrats. Connaît les titres miniers qu'on octroie. Aux investisseurs, nous-mêmes, lorsqu'on dit nous sommes en train d'aller vers la transition énergétique et qu'avec la transition énergétique, le monde a besoin de ce qu'on appelle les minéraux stratégiques pour développer ce qu'on appelle les batteries. Et notre pays produit près de 70% du cobalt et nous avons des potentialités énormes en lithium. Mais nous allons être dans des contrats, nous allons être dans des conflits de gestion, des projets, non, on sera en retard, on ne va rien gagner, même si ce sont des bons contrats. Il faut se décider de dire, moi, mon cobalt, mes mines, voilà comment je veux qu'on les gère, parce que je veux contrôler de A à Z, pour que je retrouve effectivement ce que j'ai besoin dans le développement de mon économie. Nous allons continuer à reprocher les contrats. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut faire en dehors du contrat? Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi nous-mêmes nos propres projets miniers? Tenez, nous avons à un moment donné créé une... On fait toujours des exemples. On a créé Air Congo Airways. Avec l'argent. On a construit l'immeuble intelligent. C'est avec notre argent. Nous avons critiqué les Rwandais pour avoir importé, pillé nos coltans. Mais nous-mêmes, nous sommes jusque-là incapables de construire une usine de coltan que les Rwandais ou nos voisins étaient en train d'exporter illégalement. Construire une mine claire en dehors de ce qui est construit à Bissi, nous avons autant de carrés miniers qui sont détenus par Sakima. Comment ne pas investir de l'argent pour que ce soit une propriété propre à la République?
Ça veut dire que la RDC n'a pas de vision claire comme l'a dit Franck Fouamba.
Non. Nous sommes en train d'aller vers la transition énergétique où le monde a besoin de ce que nous avons. Le monde a besoin de ce que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attendre que le monde, les autres amènent l'investissement ou nous pouvons aussi faire le minimum possible pour que les autres, quand ils amènent l'investissement, ils nous trouvent avec quelque chose. Et lorsqu'on va dans les négociations, il faut avoir les mêmes forces. Il faut être égal. Donc, les deux parties doivent être égales. Ça équilibre les contrats. Lorsque vous attendez, non, les Chinois doivent amener 6 milliards. Et vous amenez les jugements. Et vous n'avez pas certifié. Que vous n'avez pas fait d'autres recherches. Parce que quand il vient avec son investissement, il vous trouve en train de faire d'autres choses. Et vous équilibrez votre partenariat. Si aujourd'hui, le Botswana révise de nouveau, ça sera la deuxième fois. Parce qu'effectivement, il contrôle. Il faut contrôler.
Merci Georges Bokundou, direction Kisangani, dans la province de la Tchopo. Ce sera pour vous, professeur Florimond Mouteba.
Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. C'est un constat que nous partageons également du fait que quand on est dans l'opposition, on peut décrier la manière dont les contrats se négocient. Curieusement, lorsqu'on accède au pouvoir, on retombe dans les mêmes erreurs. Ici, chez nous, les autorités négocient le contrat sans que la représentation nationale ne soit au courant, le Parlement, ni moins l'implication de la société civile et les autres couches de la population. Nous pensons que ces contrats sont signés en préservant l'intérêt des contractants, surtout les autorités politiques qui les font en secret de polichinelle, mais au détriment de la population que nous sommes. Si et seulement si ces contrats sont signés pour l'intérêt de la population, pourquoi ces dernières cachent-elles le clause? Nous demandons aux autorités de pouvoir rendre public chaque clause négociée avec des tierces personnes, tout comme physique, en vue de préserver le principe de la redevabilité.
Professeur Florimond, brève réaction.
Oui, madame. En fait, souvent on parle de la malédiction ou la bénédiction des minéraux. Oui, pour le Botswana, le diamant est une bonne bénédiction, comme pour l'Angola avec son pétrole. Mais tout dépend de l'homme politique, la classe politique, ceux qui négocient le contrat. Ici, chez nous, je rappelle encore l'ouvrage de Modeste Moutinga, qu'il avait publié il y a quelques années, où il parlait des Congolais comme un peuple des inconscients. Madame, le minerai peut devenir une bénédiction pour nous. Ils peuvent le devenir. Mais avec quel négociateur? Avec quelle classe politique? Oui. Parlons du Parlement. Et c'est la raison pour laquelle la société civile et d'autres se battent pour la transparence des élections, hein, qu'elles soient libres, transparentes et apaisées. Ce combat-là, c'est pourquoi? C'est pour avoir des députés qui sont élus vraiment pour l'intérêt de la population. C'est pour avoir des dirigeants qui vont, chaque fois qu'ils vont négocier, ils se disent, oui, mais et que gagne le Congo ici? Chaque fois qu'ils donnent une exonération, ils disent, mais pourquoi on la donne? Mais ce que nous perdons là, nous le perdons pourquoi? Donc, madame, notre problème, c'est le problème des hommes congolais, de la classe politique congolaise. Depuis 60, nous avons un sérieux problème, madame. Un très sérieux problème. Même Mouzé Kabila, lorsqu'il avançait, il a signé des contrats léonais avec les Américains qui les soutenaient et autres. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas compris que nous n'avons que ce pays, nous n'avons que ce Congo, n'est-ce pas? Et tant qu'on n'aura pas compris ça, madame, je pense que tout le reste, on va pleurer, pleurnicher, mais tant qu'on n'aura pas ces hommes-là qui devant un étranger. Regardez par exemple,
quelques-uns des leaders congolais ici, ils vont aux États-Unis, ils payent beaucoup d'argent dans les lobbying aux États-Unis pour avoir la légitimité et l'appui des Américains, l'appui de l'Union européenne, l'appui de tel ou tel pays occidental pour pouvoir diriger le Congo. Je ne vais pas citer le nom, c'est pas là le problème. Mais beaucoup, ces phénomènes, vous les connaissez, ces phénomènes d'aller faire du lobbying à l'extérieur. Mais lorsque vous aurez obtenu ce soutien-là de l'extérieur, quand ces messieurs-là, leurs investisseurs, hommes d'affaires viendront pour pouvoir négocier des contrats ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur donner, leur faire le plaisir de la complaisance. Parce que déjà, avant même que vous soyez arrivé au pouvoir, vous êtes allé pour leur demander de vous soutenir. Il faut demander la légitimité, il faut l'obtenir du souverain primaire, c'est-à-dire des Congolais eux-mêmes. C'est à ces Congolais-là qu'il faudra rendre compte.
Merci.
Comme nous réclamons tout cela, la transparence, dans la négociation, dans la publication de contrats, etc.
Merci, donc, merci professeur. On va en cours derrière le temps, il ne nous reste plus beaucoup des minutes. Alors on va vite se rendre à Bukavu pour écouter ce dernier auditeur.
Je réponds par le nom de Magané Jules. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Je félicite M. Alfred Maïcha pour cet appel. En ce que je sache, le gouvernement congolais n'a jamais signé le contrat avec une société qui existe, une société réelle. Mais pour moi, ce sont des sociétés fictives que le gouvernement congolais maquille aux sociétés qui existent ou aux sociétés qui fonctionnent. C'est le cas de la société dont parle M. Alfred Maïcha Moneli de 2018. Comment comprendre qu'une société peut donner 20 000 dollars alors qu'elle bénéficie 500 millions de dollars. Donc, ce sont des sociétés qui sont créées par les autorités congolaises et certains arnaqueurs de l'Occident. Je pense que cette façon de faire, c'est ce qui met les régimes en place et les régimes précédents dans le conflit avec la population congolaise.
François.
Madame, comme Georges a dit, prof a dit, quand il s'agit de primaire, on doit être réaliste. Primaire a pas avoir ses faiblesses, mais dans peu de temps, primaire a démontré que la RDC, comme Georges venait de le dire, la RDC pouvait passer de 20 kg d'or par an à plus d'une tonne par an. Avec primaire, on a aussi découvert qu'il y a des réseaux mafieux à l'Est qui font que les pays voisins, ce sont des pays voisins, prennent des minéraux facilement et facilitent aussi les flux illicites de l'argent. Avec Primera, on a compris effectivement qu'il y a beaucoup de cartels qui sont mal à l'aise. Primera n'est pas parfait. Le contrat, il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Prof a parlé des exonérations, Georges a parlé d'autres choses. Nous avions causé avec les Georges, nous avons parlé avec le directeur général de Primera, nous lui avons dit par exemple que l'or doit être affiné ici, en attendant d'atteindre le montant qui doit, la quantité qui peut l'atteindre là-bas. Là. Mais à part ça, on doit cesser aussi on doit cesser d'avoir le plaidoyer. Parce que ceux qui attaquent primaire, on dit aussi qu'ils font la campagne des voisins de Rwanda qui veulent que la RDC ne saisisse pas de l'or qui est en train de... Primaire a démontré que le gouvernement devait ouvrir l'œil. Comprendre que la raffinerie où primaire va raffiner l'or à Abu Dhabi, elle coûte 7 millions de dollars. Ça veut dire que l'État congolais, la banque centrale, on peut prendre de l'argent dans le fonds pour les générations futures. Monter des raffineries, monter d'autres sociétés comme primaire à l'Est, maîtriser de l'or, notre franc congolais aura de la valeur, nous aurons gagné, on aura beaucoup de richesses et ça va résoudre beaucoup de problèmes qui se passent à l'Est.
Alors, que faut-il aujourd'hui? Que faut-il aujourd'hui, Franck Fomba, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission, que faut-il aujourd'hui pour qu'il y ait plus de transparence dans les différents contrats signés entre le gouvernement et les entreprises étrangères ou sociétés étrangères?
Madame, je pense qu'aujourd'hui, l'institution présidente de la République devrait convoquer une table ronde avec toutes les forces vives qui sont dans les secteurs des ressources naturelles. Les députés, les membres du gouvernement, l'AFEC et la société civile, afin que nous parlions de la vision congolaise de nos ressources naturelles. Tirer des leçons
les contrats signés par Kabila père, sous Kabila fils, les contrats de se signer maintenant et projeter l'avenir, anticiper, parce que comme Georges a dit, nous devons cesser de crier que nous sommes un pays solution ou à solution. Nous devons l'être pratiquement, parce que tout le monde nous regarde, tout le monde. Nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons les minéraux critiques que tout le monde veut, mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous sommes en train de rater de perdre le momentum. Donc il est temps qu'en tant que nation, on se met ensemble, on fait une table ronde, on dit que faisons-nous exactement pour aller sur le bon côté, en tirant les leçons du passé, en tirant les leçons du présent et en envisageant l'avenir.
Merci Franck Fomba, Georges Bokundu.
Vous savez, madame, à la fin de ce mois, SARO organise la 7e édition de l'Alternative Mining Indaba, dont le sujet, on parle de minerais stratégiques. Et dans ce contexte, la transition énergétique. Si on continue à rêver, la transition va se terminer et nous n'aurons rien. Mais les autres vont en profiter. J'aime souvent quand le ministre de l'Industrie fait des extrapolations des statistiques en termes de production de véhicules à batterie électrique dans le monde, les nombres de véhicules, et il fixe même, il donne même le prix de ces véhicules-là. Mais vous regardez, ces véhicules vont être fabriqués par des batteries électriques dont les minéraux qui doivent être produits ici, qui doivent renforcer la fabrique, doivent provenir de chez nous. Mais si on ne sait pas dire, mais dans ces lots-là, nous on va tirer combien? Nous allons rêver. Il est vrai, et que je répète, que le gouvernement doit assumer ses responsabilités. On ne va pas aller demander au Parlement de contrôler une négociation de contrat. Non, non. Le gouvernement est responsable. Et il va être responsable devant le Parlement. Alfred a fait sa question orale ou écrite. Le gouvernement va répondre. Il faut répondre avec toute honnêteté parce que nous avons une loi minière. La loi minière a supprimé tout ce qu'il y avait comme des conventions dans la loi de 1981. Depuis 2002, on n'avait plus à avoir des exonérations excessives. On donne les exonérations vraiment avec des principes. Il n'y a plus de conventions. Il n'y a pas de conventions dans le secteur minier. Ce sont des contrats qui règnent et des droits normaux qu'on peut obtenir auprès du cadastre minier. L'État peut donner des facilités. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des exonérations excessives. Il faut éviter la discrimination économique. Là où il y a des opérateurs, les uns ont des avantages et les autres n'ont pas ces mêmes avantages. Mais tout tourne autour de l'intérêt de l'État. Si réellement l'État estime qu'avec tel contrat, tel partenaire peut trouver des intérêts excessifs, c'est bon de faire ce qu'on peut faire.
Merci Georges Bokundu. Professeur, vous avez 30 secondes pour conclure.
Bon, moi je pense que tout simplement, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. On peut faire toutes les évaluations techniques et tout ça, recommander... Mais si il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est vraiment tout un problème. Par exemple, moi je ne peux pas supporter de revoir ces gens, ces parlementaires là, congolais, que nous avons au Parlement, demain, réélus par la population. Je ne peux pas supporter cela. Donc nous avons un gros problème de changement de classe politique.
Merci.
Voilà, donc moi c'est ça ma conclusion. Il faudra changer la classe politique, mais en attendant, les institutions de contrôle peuvent être améliorées, soutenues, notamment l'inspection générale des mines, l'IGF, la Cour des comptes, etc. Toutes ces institutions doivent être soutenues pour accentuer le contrôle, en attendant que la classe politique change un jour.
Merci, professeur Florimond Mouteba. Merci à ces nombreux internautes qui nous ont écrit, qui nous ont laissé des messages. Il y en a tellement beaucoup qu'on ne peut pas tous les lire. Merci à Blaise Chilombo, voilà. Depuis Mweka, Ganze, depuis Kalemi, Eric Muyumba, depuis Kombove. Merci à ces internautes qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis le Zimbabwe, depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Dialogue entre congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagnée dans la préparation et la production de ce magazine. Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Mimi Kindou, Merveille Hassani, Guimate, Dona Madimba, présente à cette coordination Kéline Kouté. Je n'oublie pas Dieudonné Nyangassa. Merci à vous tous. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.